Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Ma femme d'aujourd'hui aidée à la naissance. Aujourd'hui, eh bien, elle aide à la renaissance. On y va pour les détails.
Médien. Yasmine. Femme d'aujourd'hui.
Ehsan Agnaou, bonjour.
Bonjour Yasmina, enchantée.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Tout le monde te connaît Ehsan sous le pseudo de Ehsan Joy.
Exact.
Pourquoi justement ?
Eh ben, tout simplement, c'est que dans toute ma vie, j'ai toujours voulu voir le bonheur chez les gens, le sourire chez les gens. Parce qu'à partir du bonheur et le sourire, on peut changer le monde, déjà. Rendre le sourire aux gens, moi, pour moi, c'est juste waouh, parce que je sais qu'ils peuvent même guérir au niveau de leur santé.
Mmh. Alors, on va y aller petit à petit.
Et
Joy, c'est le bonheur, tout à fait. Alors, toi, tu as été sage-femme.
Tout à fait.
Ok. Et c'est bien, tu as été, tu ne l'es plus.
Je ne pratique plus, sauf quand il y a des personnes de la famille ou peut-être ma fille.
C'est vrai,
tu
serais capable d'accoucher ta fille ?
Oui. Toute ma famille est passée par moi, mes sœurs, donc avec plaisir même.
Ok. Alors, d'abord, sage-femme, pourquoi tu avais choisi cette voie-là ?
Je pense que, peut-être je ne le savais pas avant, mais c'est un des plus beaux métiers de pouvoir donner naissance, d'aider à la naissance. Mmh. Et il y a pas mal de secrets qui part de là, donner la vie et cette, comment on appelle ça, le fitra, de tout démarre de là. Mmh. Et aujourd'hui, j'en prends conscience par rapport à chaque être humain doit revenir à justement cette naissance, à ce bébé, à cette fitra. Mais c'est quelque chose de waouh de soulager la maman et de voir comment l'âme peut rentrer dans le corps et rendre la vie à un petit être qui était un cacao de sang et puis qui nous donne cette vie ici sur cette terre en fait pour cette mission.
Mmh. Alors toi, tu as vécu en Belgique, tu es née là-bas ou tu as grandi ?
Je suis née là-bas d'une troisième génération. Mes grands-parents sont venus dans les années 60, fin 50.
D'accord. Et ensuite, tes parents et bien sûr, et toi. Et alors, troisième génération, comment est-ce qu'on reste ? Après, on va arriver à ce que tu fais aujourd'hui. Mais comment, moi, ça m'a toujours interpellée, comment on reste tellement connecté à sa culture, à son identité marocaine, à sa religion ? Toi, tu es une femme voilée. Alors, comment une troisième génération reste autant connecté ?
Franchement, c'est une très, très belle question parce que l'identité, c'est la plus grosse des problématiques aujourd'hui, qui est complètement compliquée pour les gens. Moi, j'ai eu de la chance, en fait, d'avoir vécu dans une famille avec le partage, avec la confiance, l'amour de mes grands-parents, de mes parents. Et en même temps, on nous a inculqué au niveau des valeurs de l'islam, parce qu'il faut faire la différence entre la culture, les valeurs de l'islam en elle-même, mais aussi, j'ai eu de la chance d'être là en Belgique, entourée justement des Belges qui avaient certaines valeurs qui me correspondaient. Et comment j'ai matché tout ça, c'est simplement avec la connaissance, c'est-à-dire que je devais me sentir bien au fond de moi-même. Si je ne me sens pas bien, c'est que je ne suis pas alignée. Donc, ce que je faisais, je prenais le bien de ce que je pouvais trouver dans les cultures marocaines, c'est-à-dire le partage, l'amour, tout ça, c'est waouh au niveau de notre culture, au niveau du Maroc. Et puis, nous avons notre culture de l'islam qui est d'être amour de Dieu et non pas la peur de Dieu. Ça aussi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Et puis, dans ce qui est plus belge et qu'on retrouve maintenant fortement au Maroc aussi, c'est vraiment la discipline. La discipline, la parole, le temps. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidée par rapport à la Belgique. Et puis, j'ai mis tout un checking pour voir en fait mon identité et me poser la question, qui suis-je ? Et moi, je devais être alignée par rapport à ça. Mais je sais que en vivant là et en étant thérapeute aussi, parce que je suis thérapeute quantique à la médecine traditionnelle chinoise, et avec en tant que sage-femme, j'avais une entreprise en tant que soins à domicile. Donc j'ai vu, j'ai fait des suivis de femmes ou d'hommes ou d'enfants même de mort. Donc, c'est-à-dire j'étais entre les deux, entre la vie et la mort. C'est-à-dire que je donnais naissance, mais en même temps j'ai aidé à que l'âme sorte du corps facilement.
Ouais.
Donc j'avais ces deux parties-là, j'étais vraiment au milieu de ça. Et je me rends compte avec tous les contacts que j'ai eus dans ma vie, j'ai vu qu'il y avait un manque d'identité. Donc la plupart des gens, malheureusement, ils sont complètement perdus dans leur identité. Mmh. Aujourd'hui, je pensais que c'était que les étrangers ou les Marocains, etc. Mais je me rends compte que finalement, la société a fait que même n'importe qui est né de souche, en fait, même les Belges de souche, avait perdu leur identité.
Mmh. Alors, encore une fois... Quand on est, quand on est cette troisième génération, comme toi, avec les grands-parents et les parents en Belgique, est-ce qu'il y avait ces voyages annuels au Maroc? Parce que ce qu'on sait, c'est qu'en général, justement, les gens rentrent pour voir leur famille, voir leurs grands-parents, voir leurs parents, alors que toi, tu avais tout le monde autour de toi là-bas.
C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'avais tout le monde autour de moi. Mais mes parents, ils avaient encore, ou mes grands-parents avaient leur racine là-bas. Eux, leur but de mes grands-parents, c'est de construire au Maroc pour revenir, c'est-à-dire de rendre certainement peut-être la vie meilleure à leurs enfants, mais ils étaient toujours attachés à leurs sources et à leur origine. Et chaque année, on descendait. Moi, j'avais la chance de que mon papa était indépendant, donc on allait vraiment 2 mois. Mmh. Et on vivait, j'avais la chance de ne pas vivre ce truc de rester à la maison, le ménage, etc. On faisait nos sorties, on allait à la plage, on louait à la mer. Donc moi, j'avais que des bons souvenirs. Et c'est pour ça que je suis très, très attachée au Maroc et j'ai donné cette culture-là à mes enfants aussi.
Donc, il y avait ce va-et-vient entre la Belgique et le Maroc.
Exact.
Ouais, oui, ça continue. Allez, oui. Justement, qu'est-ce qui t'a amené à changer de voie professionnelle et à t'occuper de l'âme plus que du physique?
Oui, en fait, moi, je m'occupe un peu des deux, mais j'avais certains secrets que je ne comprenais pas à l'époque.
Certains secrets?
Oui, des certains secrets qu'aujourd'hui je peux le dire au niveau scientifique comment ça fonctionnait chez moi. En fait, quand je voulais quelque chose, quand je voulais créer des choses, je le faisais et ça, j'arrivais à le faire facilement. J'avais 5 entreprises, 5 casquettes et je me dis mais comment des personnes savent le faire et des personnes ne savent pas le faire.
Okay.
Et c'est là que je me suis rendu compte que au plus on est dans le partage, au plus on reçoit. Mm. Au plus on est dans la gratitude, au plus on reçoit. Et je l'ai compris par après, quand j'ai rencontré justement une opportunité, on m'a présenté un projet. Dans cette opportunité, c'était au niveau physique, c'était le relancement métabolique. Mais au-delà de ça, pour que les gens puissent réussir dans la liberté, d'une part de santé, mais après la liberté financière, on m'a parlé de développement personnel. Mais j'étais embrouillée un peu avec le développement personnel, mais je suis rentrée dans la thérapie quantique, qui était plus le dépouillement personnel. Et en fait, dans ça, je suis rentrée dans un jeu où, certes, on peut attirer les choses vers nous facilement, sans travailler dur et avoir le même résultat que quelqu'un qui travaille dur. Je m'explique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il suffit simplement de croire profondément, parce que pour moi, nous sommes des co-créateurs de Dieu, parce que Dieu il est insufflé en nous. On est des co-créateurs, on peut créer des choses, mais on ne sait pas le faire avec la peur. On ne peut pas le faire avec la peur ou le stress. Mmh. Donc moi, j'ai appris qu'il faut d'abord se dépouiller. On parle beaucoup de croyances limitantes, on parle beaucoup de blocages, on parle beaucoup de tout ça aujourd'hui. Mais on ne peut pas forcer, comme on fait avec le développement personnel, c'est-à-dire tu peux le faire, you can do it. On peut le mériter.
Oui, oui.
Mais tout en lâchant prise, c'est-à-dire on passe à l'action, on a un objectif, on fait un plan. Et après ce plan-là...
Il ne suffit pas de le dire, en fait, ou de le répéter. Quand on parle d'ancrage, de répéter, etc. Non,
exactement.
Il faut le ressentir profondément.
Il faut le ressentir, exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'on doit lâcher prise. Donc, on fait les choses, on le voit, mais on lâche prise au résultat. On dit non, on brûle parce qu'on n'a pas lâché ce nerf vague, en fait, qui nous tient vers l'arrière. Mmh. Donc, on est obligé de le lâcher complètement, le sentir dans nos cellules.
Je vais juste ouvrir une parenthèse dans ça. C'est vrai que on est dans Femmes d'aujourd'hui, on n'est pas dans une émission de bien-être et de santé et de développement personnel. Mais je veux te poser une question. parce que je me retrouve parfois moi-même, en fait, à douter de certaines choses. Dans... Je m'explique. Voilà, je vais faire simple.
Oui, je comprends.
Okay. Je vais faire simple. Quelle est la différence entre lâcher prise, ok, et travailler pour faire en sorte que cet objectif se réalise? Parce que des fois, je me dis, ok, il faut que je lâche prise énergétiquement, que mes cellules se détendent, mais en même temps, je dois être en action. Ça ne va pas tomber
c'est
du
ça.
Ciel.
Et, c'est ça.
Et en fait, quand je suis en action, est-ce que je ne suis pas en train de lâcher prise en réalité? Et je suis dans ce
en
dilemme.
Fait, oui.
Je lâche prise, je ne fais rien et ça tombe du ciel.
J'avance ça,
et je bloque.
Prise, c'est ça que les gens ne comprennent pas. En fait, le lâcher prise, c'est quoi? Le lâcher prise, c'est par rapport au résultat. C'est-à-dire qu'il y a un objectif. Cet objectif... Par exemple, je donne un exemple ici par rapport à mes vidéos, etc. Donc, j'ai un objectif, par exemple, de vendre quelque chose. Mais pour arriver à cet objectif-là, je dois passer en mouvement. On ne peut pas avoir quelque chose en mouvement. Et ça, c'est l'action. L'action, c'est-à-dire que, OK, je dois faire mes vidéos pour avoir des leads, pour avoir ceci. Ça, c'est mon action. Donc, je suis obligée de le faire. Mais le lâcher prise, c'est dans quoi? C'est dans le résultat. C'est-à-dire que j'ai fait l'action. Maintenant, je la lâche prise par rapport au résultat, parce que je ne sais pas quand ça va se manifester, quand Dieu va m'apporter le comment.
Ok, je comprends.
Je n'ai pas le comment, mais je dois être en connexion dans le lâcher prise, que le lâcher prise, simplement être connecté avec son cœur et d'avoir le message du cœur.
Et comment on fait pour gérer la frustration de ne pas voir le résultat, justement, et de voir, par exemple, le résultat chez d'autres personnes ou, tu vois ce que je veux dire, c'est très, très, très terre à terre. Voilà.
Oui, tout à fait. Eh ben, c'est ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que. Et justement, c'est ça qu'on parle de... Après, on revient dans le développement personnel, en disant ben, il ne faut jamais abandonner parce qu'on vient de commencer. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui est bien? C'est-à-dire que la fréquence vibratoire dans laquelle on doit être, elle n'y est peut-être pas encore. Lui connaît le plan. Justement, si on abandonne facilement, si on frustre, ben, on redevient à l'étape 3D, ben, on recommence le cycle. Il faut vraiment se lâcher prise, de dire, bon, je ne dois pas regarder le résultat du tout, parce qu'à l'école, on ne nous apprend pas ça. Tu dois avoir le diplôme pour avoir un résultat.
Oui.
Ici, on ne regarde pas le résultat. C'est-à-dire qu'on ne fait que faire. On fait vraiment pour la cause de Dieu. J'aide les gens, j'ai une cause, j'ai une mission. Le résultat viendra quand on sera en vibration, quand on sera aligné. Et c'est là que les résultats vont commencer à apparaître. Et ça, ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Mais il vaut mieux que ça dure 10 ans et qu'on attire l'abondance une fois qu'on craque le code, que de travailler 45 ans de carrière, par exemple, pour le même salaire, et peut-être qu'il n'y aura plus rien par après.
Craquer le code, ça veut dire quoi, justement? Parce que toi, tu es thérapeute quantique. Mais c'est...
Justement, c'est craquer le code, c'est justement d'être justement dans cet alignement. C'est-à-dire dans cet niveau de conscience qui est plus élevé. Parce que la plupart des gens dans le monde sont dans un niveau de conscience très bas. C'est-à-dire que si on n'a pas la chose, on frustre, on n'est pas bien. Mais quand on est dans un niveau de conscience haut, on est dans une certaine sagesse. On est vraiment j'appelle ça le flow, vraiment vivre dans le flow. Et ça, on craque le code à un certain moment. Mais il faut le faire tout le temps. C'est comme une feuille de papier. Quand on a la loupe, on brûle cette feuille. Mais il faut rester dessus, en fait.
Okay. Terre à terre. Être dans le flow. Quand ça ne fait pas manger, quand on a besoin de payer ses factures, quand on, tu vois ce que je veux dire? Quand on est en train de travailler, qu'on ne voit pas de résultat, alors que derrière, il y a les charges de la vie. On va prendre l'exemple d'un entrepreneur. Tu vois? Être dans l'entrepreneuriat, ne pas voir les résultats de son travail, ne pas arriver à cette abondance, faire ce qu'on a à faire et pourtant, ça n'arrive pas. Ce n'est pas facile de dire à cette personne, mais reste dans le flow.
C'est ça, parce qu'il ne va pas comprendre déjà le flow. Parce que le flow, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait les choses, mais on doit sentir... Le flow, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait les choses, on doit être hyper conscient de ce que l'on ressent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant on va faire les choses dans l'action, on est dans un mode bêta, haute fréquence, donc on est dans l'action, c'est normal, il faut bouger, il faut faire les choses, on doit le faire. Mais on doit avoir cette certitude et cette conscience de l'avoir, mais après, on fait les choses en fonction de ce qui nous vient. Tu vois, un peu l'eau qui est dans les rochers, on doit faire les choses, mais pas forcer de dire non, je dois absolument, et pourquoi c'est pas là, et pour... Et ça, c'est ça qui casse. Mais quand on est dans le flow, on fait les choses, et puis on adapte, et puis on réfléchit, puis une idée qui arrive, on travaille, c'est pas ne pas travailler, hein. C'est vraiment faire les choses, le travail, il est là. Mais être dans le faire, il faut le faire. Parce que moi-même, moi, j'ai réussi dans ce que je fais parce que ben, je suis focus, je fais les choses. Mm. Je dois faire mes 3 vidéos, je dois contacter les gens, Mais les gens, ils ne vont pas comprendre le flow. C'est pour ça que c'est un suivi, en fait. Hein. C'est vraiment dire à la personne, voilà, ce que tu ressens. Au plus la personne est hyper consciente, au plus elle va être consciente de ce qu'elle ressent, au plus elle va être dans ce flow. Elle va suivre le chemin dans laquelle elle est guidée, en fait. Okay. Même dans ce qu'elle fait, dans n'importe quel entrepreneuriat.
Allez.
Parce qu'au plus, en fait, dans la quantique, au plus on force, on veut la chose, au plus elle s'éloigne.
Et plus elle s'éloigne, absolument. Allez, justement, de sage-femme à thérapeute quantique, comment c'est fait et pourquoi c'est fait ce changement de cap?
En fait, c'est tout un cheminement. Je pense que depuis toute petite, j'aime apprendre, découvrir. Et je crois que c'est l'apprentissage. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre, découvrir. Dès qu'on pose une question, je vais faire mes recherches, je vais aller voir. Et ça m'a guidée vers ça. J'avais commencé la médecine traditionnelle chinoise à un certain moment. Et j'ai fait 5 ans avec Europe Shanghai. Et j'ai vu qu'on allait chercher les causes du pourquoi des maladies, ou bien pourquoi on n'est pas là, etc. Et aujourd'hui, la science, on appelle ça l'épigénétique, elle croit justement ce domaine de la cause qui est spirituelle. Et au niveau du corps, mais maintenant, moi, j'agis dans les 3 choses. Et ce qu'il y a, pourquoi je suis passée de là, je ne sais pas si c'est venu devant moi. Et en recherchant, je suis tombée sur un gars qui s'appelle Stéphane de Rouet, qui est français, et qui parlait de devenir au niveau quantique. Je voulais en savoir plus. Donc, j'ai pris cette formation-là, et en fait, c'est le dépouillement. C'est toutes les limitations qu'on se met à l'intérieur, qui nous rendent limités, ces pensées, qui ne sont même pas les nôtres, en fait. Hein. Ça vient de nos parents, de nos ancêtres et tout. Et là, lui, il nous apprend à comment se dépouiller. Ça veut dire, avec des thérapies, c'est comment lâcher prise, justement, et de faire complètement confiance en Dieu. Lui parle de la vie, ou bien de Dieu, ou bien d'Allah, ou bien de l'univers, mais c'est vraiment de lui faire confiance totalement. Et c'est vraiment ça. Et là, on est dans le lâcher prise. Et là, on libère des toxines, et on libère des cellules enflammées, par exemple, et on peut carrément aller vers la guérison. Et là, moi, j'ai rejoint après toutes les audios de Joe Dispenza, de Bruce Lipton qui parle de génétique, etc. Et là, j'ai compris que notre santé, elle est entre nos mains. Et là, j'ai dit, je peux aider les gens à ça dans le monde, parce que c'est la chose qu'ils pourront récupérer. C'est vrai que j'ai commencé les réseaux sociaux, puis je suis partenaire aussi d'une société justement qui est dans ça, avec les mêmes valeurs que moi, qui travaille dans l'épigénétique, avec des produits qui agissent sur les gènes, mais en même temps, les gens qui me rejoignent dans l'équipe, je leur apprends tout ça. Parce qu'on ne sait pas le faire en 6 mois, 1 an. Donc avec les résultats, avec le relationnel, là on va savoir. Parce que dans le relationnel, comme aujourd'hui, ce n'est pas un hasard si on s'est connecté. Parce que dans les relationnels, il y a une vibration entre moi et toi qui s'est faite à un certain moment par rapport à mon alignement, qui a fait qu'on s'est connecté et qui va m'apprendre des choses sur moi. On n'est pas par hasard sur Terre, cette sagesse, justement, ça fait d'aimer tout le monde. Et dès qu'on ressent quelque chose, c'est qu'il y a un truc dans notre passé qu'on doit simplement guérir. C'est ça, la quantique. Et aujourd'hui, grâce à ce projet, c'est un projet global. Et j'aide les gens dans le corps, la spiritualité et l'intellect. Parce qu'on doit avoir un objectif de vie. On est là pour grandir et pour avoir une mission ici. En fait.
Mais ce changement de... Parce que c'est un changement de cap de vie aussi, qui engage une formation, enfin plusieurs formations. Et on met ça dans le contexte de la vraie vie. C'est à ce moment-là, tu travaillais aussi, tu étais sage-femme, tu es maman. Okay. Donc, tout ce cheminement, il s'est fait un petit peu dans une forme de douleur. Est-ce que c'était aussi une gestation, pour prendre les mots de ce que tu faisais avant, tant que sage-femme?
Oui, sûrement. Hein. Ça n'a pas été du jour au lendemain. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'à un certain moment, je me sentais plus libre. En fait, le mot liberté, pour moi, ça... J'ai travaillé jusqu'à quand même au moins 30 ans, je crois, dans ce métier-là. Et m'appeler, parce que j'étais en privé, donc m'appeler à n'importe quelle heure de la journée, partir pour les accouchements, ceci. Donc j'étais vraiment demandée avec les autres sociétés. Je ne me sentais pas libre, je ne peux pas travailler d'où je veux. Donc je me dis, moi, j'ai donné ce que je devais donner. Aujourd'hui, je vais travailler sur cette naissance, mais autrement. Je crois que ça lie un peu ça.
Oui, exactement. C'est une renaissance, en fait.
Voilà.
C'est une renaissance. Oui, absolument. Et tu en as eu besoin, toi, à titre personnel, de comprendre des choses, de renaître?
Oui, sûrement. Hein. Moi, j'étais à côté de la plaque, je crois. Hein. Je pensais que mon identité, c'est comme ça et c'est comme ça. Je voulais écouter personne. Je voyais que je réussissais. Je vivais en dehors de mon corps. C'est après que je me suis... Parce que je n'étais pas du tout consciente, en fait. Aujourd'hui, je deviens de plus en plus consciente et je vois des choses. Parce qu'on a tout, on croit toujours qu'on a toujours nous raison. Mm. Mais non, c'est notre perception, c'est aussi nos croyances. Donc, c'est normal qu'on agisse comme ça. Et c'est qu'on prend... Et là... Ça a amélioré dans mon couple, ça a amélioré dans la vie familiale, ça m'a amélioré sur ma vie quotidienne, de cette paix intérieure qu'on recherche. C'est ça le vrai bonheur. Oui. Et j'ai envie que les gens ressentent ça.
Mmh. Eh bien, Ehsan Joy, justement, Ehsan Agnaou, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Vraiment avec plaisir, et c'était vraiment un honneur. Et merci de m'avoir invité, de m'avoir fait confiance.
Merci à toi pour ta confiance aussi. Bonne journée, Ehsan. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.